prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, pleurer sur Jérusalem.
Alors, ce matin, nous allons tout simplement ouvrir un texte un petit peu avant ce grand événement qui est la Pâque. On a un petit peu d'avance, mais toujours est-il que j'aimerais justement que nous revenions aux fondamentaux de l'Évangile, c'est-à-dire ce qui vaut qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes sauvés, que nous croyons pleinement dans ce pardon de Dieu à travers la personne de Jésus et puis le prix qui a été payé. Alors nous allons lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, tout simplement, eh bien, ce passage, et j'aimerais lui donner un commentaire. Alors, ça peut avoir comme signification une exhortation de l'édification et puis même tout simplement, eh bien, créer de la foi dans nos cœurs, hein, faire de l'évangélisation. On peut dire cela comme ça. Donc, Luc chapitre 23, et verset 44, événement s'il en est, puisque le ciel rencontre la terre. Et voilà ce que je découvre à partir du verset 44. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous renouvelle dans cette parole, puisque elle est à l'essentiel de notre vie de chrétien, notre vie de foi. Commence par ce verset où nous avons lu ceci, ceux qui assistaient en foule au spectacle. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de spectacle, où on fait du spectaculaire, hein, dans des choses tout à fait diverses et variées, et peut-être même dans le domaine du fait religieux. On aime le spectacle. On aime voir des choses qui crée chez nous un correspondant de sensibilité, de sensiblerie, où on peut dire, eh bien, j'ai reçu quelque chose, j'ai senti quelque chose, j'ai vu quelque chose. Et ce jour-là, à Jérusalem, il y a très longtemps, les gens étaient venus au spectacle. Mais quel spectacle ? Et s'il y a des qualificatifs, je parlerai de spectacle horrible et terrifiant. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas changé. Quand on sait qu'il y a de nombreuses personnes, ou une catégorie de personnes, qui quelque part, excusez-moi l'expression, mais qui se délectent de spectacles d'horreur. Ouais. Il y a une clientèle pour ça. Hein. Il semblerait que c'est devenu tellement courant que quelque part, eh bien, ça ne fait plus rien aux gens de voir des choses qui sont difficiles à soutenir. C'est le spectacle d'un homme, figurez-vous, que nous rapporte ce texte, qui meurt crucifié. Eh oui. Alors aujourd'hui, des crucifixions, on n'en voit pas beaucoup. Fort heureusement, c'est un spectacle qui a disparu. Mais ça se passait dans ce temps, parce que c'est une vieille histoire. Hein. Ce n'est pas les Romains qui ont inventé la crucifixion. Déjà, dans les empires Moyen-Orient, je pense aux Chaldéens, Babylone et puis tous les autres, eh bien, ils avaient aussi l'habitude de crucifier. Alors, on ne crucifiait pas n'importe qui, on crucifiait les criminels de sang, criminels naturellement, et puis les esclaves qui s'enfuyaient. Mais là, la question est posée, et c'est pour ça que ça a été consigné d'une manière tout à fait particulière pour nous interpeller et nous amener à réfléchir. Que peut-il y avoir finalement de beau, ou d'attrayant, ou d'intéressant, dans la mort d'un homme, dans la mort de quelqu'un, pour que la foule se rassemble et le voir mourir? Vous savez, dans notre pays, dans les siècles, ou dans l'Ancien Régime, il y avait, lorsqu'il y avait les exécutions capitales en place publique, eh bien, il y avait la roue, il y avait le bûcher et tout cela, et on faisait en sorte que les gens viennent voir. C'était un, ça avait valeur d'exemple en disant, ben voilà, si vous enfreignez ceci et cela, ben vous allez voir que vous allez avoir le même sort. Et heureusement, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus décentes et beaucoup plus pudiques quand il y a des exécutions, et on peut bénir le Seigneur qu'il n'y en ait plus, des condamnations à mort, enfin, en tous les cas chez nous. Et je crois que le rassemblement avait pour raison, ça se passe à Jérusalem, on l'a vu, on l'a lu, c'est que la population de Jérusalem voulait voir, ou voulait plutôt avoir la preuve de, excusez-moi, l'identité véritable de celui qui se disait le Messie. Ah oui, parce que depuis 3 ans, eh bien, il avait enthousiasmé les foules et il avait embarrassé aussi d'autres gens. Et ça posait un énorme problème parce que qui est Jésus de Nazareth? Comment le situer? Il fait des choses extraordinaires, la foule l'écoute pendu à ses lèvres parce qu'il dit des choses, voilà, et que on ne saurait pas dire. Et il, en plus, il ajoute aux paroles des actes. Et je crois qu'il y avait tout un mélange, une confusion, toutes sortes de choses à l'intérieur des cœurs et des consciences que, mais on veut savoir qui il est exactement. Alors c'est peut-être la preuve, justement, en le clouant sur une croix pour savoir comment il va réagir. Et un défi est lancé à Jésus, naturellement, dans la suite de ce que nous venons de dire, parce qu'on va lui crier « Si tu es le Fils de Dieu ». Voilà. Vous savez, c'est conditionnel. Hein, si tu es le Fils, au cas où tu serais le Fils de Dieu, eh bien, nous aimerions que tu descendes de ta croix et que tu te sauves toi-même et tu vas traverser la foule et tu vas montrer à tous ceux qui sont là, eh bien, en train de te persécuter, de te vilipender, eh bien, tu vas leur montrer que tu es le plus fort. Voilà, tu descends de ta croix et comme ça, tout le monde le saura. Et nous, tes disciples, alors on va applaudir. Parce qu'au moins, tu donneras là une manière éclatante que tu es celui que nous attendons et en quel nous croyons. Spectacle hideux, vision insoutenable. Pourtant, nous voyons que la vindicte populaire est là dans la personne des bourreaux, des mandataires, parce qu'ils ne se montrent pas, ceux-là, ils sont un petit peu dans l'ombre, mais ils se frottent les mains, et puis des supporters de tous acabits, et puis naturellement, il y a toute cette population de badauds, de curieux qui se repaissent du sang au nom, soi-disant, de la sacro-sainte justice humaine. En fait, nous sommes à un spectacle où il ne s'agit pas d'une justice humaine, ni d'une justice divine. On peut en parler naturellement parce qu'elle existe, et elle existe même là dans le cas qui nous intéresse, mais d'une justice diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Justice diabolique. Alors, c'est une heure de folie collective. Les gens perdent la tête. Aucune raison. Ils entendent, ils voient, et ça les excite, tout simplement. Et voilà la signification de ce sinistre rassemblement. Hier, mais pas plus tard qu'hier, dans les rues de Jérusalem, on criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et 2 jours après, on crie un autre langage « À mort, crucifie-le !» Et au risque même que son sang retombe sur la tête de nos enfants. C'est de la folie. C'est quelque chose de terrible. Mais d'entre ces hommes déchaînés par la passion, par le spectacle, par toute l'ambiance, l'atmosphère qui a lieu, alors parmi tous ceux qui sont là, qui a compris? Qui a réalisé le sens réel de ce qui se passe sous leurs yeux? Et il y a 3 choses qui nous parlent. On va les énumérer, on va les commenter. 3 choses qui devraient parler à tout le monde. Qui devrait parler à ceux qui s'interrogent, même s'ils se tiennent de loin, dans le lointain. Vous savez, on l'a lu dans la dernière phrase tout à l'heure. Premièrement, la première chose, c'est qu'il est midi. Il est midi et en principe, c'est le plein jour. Le soleil, et surtout en Israël, est à son zénith. Il est midi. Or, le texte nous rapporte que les ténèbres s'appesantissent sur la terre. À ce moment-là, il y a un phénomène qui va se passer. Un phénomène surnaturel, soudain, et normalement, il devrait y avoir des réflexions que suggère l'événement. Comment se fait-il que nous sommes en plein jour et qu'il fasse noir? C'est curieux, hein? Comment on peut expliquer les choses? On peut toujours dire qu'il y a un phénomène naturel. Bon, laissons. La deuxième chose qui parle et qui devrait parler et qui nous parle encore, c'est que le voile du temple va se déchirer sans le secours d'aucune main humaine. À un moment donné, eh bien, il va y avoir cette séparation, le temple. Et ce voile va se déchirer. Et c'est un signe de haute signification spirituelle, nous le verrons tout à l'heure. Troisième chose, ce sont les dernières et ultimes paroles de Jésus sur la croix, les dernières et ultimes paroles, je précise, d'un mourant. « Père, dit Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Père !» Et lorsque nous savons tous les enseignements précédents et que nous connaissons l'identité exacte et que nous croyons à cette identité de Jésus, il est le Fils de Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Je voudrais faire un bref rappel. Jésus-Christ a fait son apparition dans le monde, dans son monde, dans le nôtre, dans le monde des hommes, pour y annoncer finalement le royaume de Dieu, qui est exprimé à travers une parole que l'on appelle l'Évangile. Tout simplement. Et, chose extraordinaire, c'est que nous apprenons qu'il annonce une parole et il est lui-même la parole vivante, la parole incarnée. Et nous voyons qu'il n'y a aucune contestation, les Écritures nous en donnent la preuve, que son autorité est reconnue, même par ses adversaires. Puisque, si nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, il nous est dit que la foule, pas ce jour-là, mais un autre jour, après le sermon sur la montagne, vous savez, ce discours fleuve que Jésus a laissé aux hommes, que nous appelle les béatitudes et puis tout le reste, nous savons que la foule, à ce moment-là, 3 ans auparavant, a été frappée de sa doctrine, car il enseignait ayant autorité. Et les gens étaient étonnés. Il prêchait dans la synagogue, il prêchait dans les synagogues, et il se disait, mais il y a quand même quelque chose de particulier, nous comprenons bien la même langue, nous comprenons l'araméen, et il nous dit des choses que nul autre ne nous a jamais dit. Et il devient à ce moment-là, dès le départ de son ministère, il devient le héros de Dieu, R-A-U-L-T. Et il était aussi le héros, naturellement, mais celui qui porte la parole. Dans Hébreu, la confirmation nous est également fournie après avoir autrefois, nous dit le texte, après, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu parlait à nos pères, eh bien, il va nous parler maintenant par le Fils. Donc, ça, c'est un événement. Et cet événement, les dernières paroles, nous les saisissons alors que Jésus est sur la croix. On les appelle les 7 paroles de la croix. Vous connaissez ? Naturellement. Parole sublime, parole merveilleuse, parole ineffable, qui sont demeurés jusqu'à maintenant et qui sont crus par des millions, je dirais aujourd'hui, on peut peut-être même ajouter le mot milliard, à travers les siècles, les temps, les civilisations, paroles qui ont été retenues, paroles qui sont consignées, en sachant que la Bible reste le premier best-seller de toute l'histoire de l'humanité. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on ait voulu, eh bien là, la détruire, la brûler, en faire un auto-da-fé, mais toujours est-il que jamais homme, nous dit le texte, dans Jean. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ce sont ces dernières paroles que nous allons méditer, en tous les cas 3 de ces dernières paroles. Sa vie a été de proclamer la vérité, nous l'avons dit tout à l'heure, d'annoncer aux hommes le salut, un salut qui était véritablement l'attente et la consolation d'Israël depuis des siècles et des siècles, promis et entretenu par des prédictions et des prophéties. Mais également derrière tout cela, il y avait un message de pardon, un message de délivrance, un message d'amour venant du ciel à travers force d'enseignement, de paraboles, d'exhortations, de prophéties, etc., etc. Et sur la croix, jusqu'à la fin, Jésus a parlé. Et je vous dirai que Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus parle encore. Nous sommes là rassemblés et nous méditons une parole, nous méditons sa parole. Mais je crois qu'en dehors de nos murs, en dehors de nos rangs, il y a certainement, au moment où je vous parle, des hommes et des femmes même ici dans la région, où Dieu parle encore, où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle avec force, il parle à des gens qui sont en train de pleurer au moment où nous nous sommes réunis. Il parle à des gens qui sont dans le questionnement, dans l'incertitude, ils sont dans toutes sortes de perplexités. Et je crois que Dieu parle. Il ne va peut-être pas le faire de la même manière que nous le faisons en ouvrant la Bible, mais je suis convaincu qu'il parle. Et je voudrais vous donner quand même une preuve qui est aussi la vôtre comme la mienne. C'est qu'un jour, alors que je ne cherchais pas le Seigneur m'a parlé, je l'ai entendu. Et il est capable encore de le faire aujourd'hui. Et prions, prions et ne nous décourageons pas de prier pour tous ceux qui sont autour, parce que le Seigneur ne va pas forcément utiliser nos méthodes et nos moyens et notre conception à nous. Mais pourvu qu'il parle. Et qu'il continue à parler. Et je crois qu'il n'y aura jamais de parole qu'il parlera aussi fort et aussi haut qu'à travers le message de la croix, le message de la passion du Christ. Là où est prêchée la croix, il y a toujours une onction du Saint-Esprit. Et c'est toujours la croix, l'image de la mort. Mais derrière la mort, il y a toujours la renaissance et la résurrection. On l'a vu ces derniers jours, je fais une petite parenthèse, lorsque nous avons visité ce haut lieu de mémoire de la Shoah à Jérusalem, de voir cette abomination, de voir cette chose inouïe que l'on puisse détruire des millions et des millions d'hommes, d'enfants, et de voir qu'après ce génocide qui ne porte aucune qualification sinon l'enfer, de voir un peuple qui renaît, un peuple qui revit, un peuple qui ressuscite. C'est ça la croix. La croix, c'est pas la mort. La croix, c'est la vie pour chacun d'entre nous. Alors, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Jésus a parlé jusqu'à la fin, parole de pardon. Écoutez bien, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Cri d'angoisse et d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Une promesse de salut immédiat à cet homme qui est un criminel de sang. Et qui lui, au dernier instant, in extremis, va se saisir le salut. Et il entendra, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole d'amour pour une mère éplorée. Mère, voilà ton fils. Vous connaissez les textes bibliques, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et le j'ai soif de Jésus, alors qu'il est en l'ultime moment de passer de cette vie, de quitter cette vie, il a soif. Et on peut avoir soif, certainement, quand on est sur une croix, suspendu dans plein soleil. Enfin, dans ces conditions. Mais ça, le j'ai soif, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et enfin, cette parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui. Je ne les confierai pas à n'importe quelle main. Entre les tiennes, elles sont saintes, elles sont justes. Si je meurs aujourd'hui, c'est parce que tu as une justice. C'est que tu es juste de me faire mourir. Et je ne meurs pas pour moi-même, je meurs pour les autres. Je meurs pour tous ces gens de Jérusalem sur lesquels Jésus a versé des larmes, vous savez, lorsqu'il était au mont des Oliviers et qu'il contemplait cette ville, qui était sa ville de l'amour des Juifs, en quelque sorte. Alors, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Au verset 44, nous l'avons lu, il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre, nous rapporte eh bien Luc, jusqu'à la neuvième heure, et à ce moment-là, un phénomène étrange, un phénomène inquiétant, épouvantable, parce que le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit. Hein. Le soleil s'est obscurci. Une obscurité de mauvais augure, hein, si je peux me permettre, de 12 heures, notre heure à nous, à 15 heures de l'après-midi. Explication scientifique difficile, assurément, parce qu'une église, une éclipse longue de 3 heures, c'est quand même quelque chose. Quand elle dure quelques minutes, hein, je crois que sont estimées les plus longues à 7 minutes et quelques. Hein. C'est déjà quelque chose. Hein. Ça doit être assez angoissant quand il fait tout noir, hein, surtout en plein jour. Il existe une explication spirituelle. Vous allez me dire, mais c'est un cas unique. Non, parce que dans la Bible, souvenez-vous des ténèbres d'Égypte. Et là, c'était aussi une marque de jugement de Dieu sur le peuple d'Égypte, l'Empire. Exode, chapitre 10, verset 22, il nous est dit que Moïse, par le fait d'avoir étendu sa main, il étendit sa main vers le ciel, et à ce moment-là, immédiatement, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant, vous souvenez, pas 3 heures, pas pendant 3 minutes, mais pendant 3 jours. Alors ça devait être quelque chose d'assez impressionnant. Hein, l'Égypte, c'est un pays de soleil et de jour, hein, de clarté, de luminosité, 3 jours. Mais ce n'est pas encore le cas unique. Permettez-moi, si vous voulez nourrir votre foi, quand lorsque nous considérons qu'il y a un jour qui a été annoncé par le prophète Joël, au chapitre 8 et au verset 2, il est dit ceci, « Jour de ténèbres et d'obscurité », peut-être en parlant et en prévoyant ce qui se passerait à Golgotha, « Jour de nuées et de brouillard », dans Sophonie, eh bien, il nous est dit « Jour de détresse et d'angoisse, jour de ravage et de destruction », et c'est la nuit. Et pourquoi c'est la nuit en plein jour? Pourquoi c'est la nuit à ce moment-là? Pourquoi les choses vont-elles se passer ainsi, alors que Dieu est le maître, finalement, des mouvements de la planète, des étoiles, des astres et tout ça, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui arrive, et c'est ténébreux. Peut-être pouvons-nous l'appeler la nuit du mal. On pourrait peut-être donner d'autres choses, la nuit de l'obscurité, la nuit des ténèbres. La nuit du mal et de celui qui l'incarne. Le prince des ténèbres, parce qu'il est comme cela, appelé, ainsi appelé. Satan triomphe et la nuit apparaît pour saluer sa victoire, mais j'ajoute, apparente. On est bien d'accord parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Sa victoire, autant Jésus est lumière, il apporte la lumière, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale ou spirituelle, autant celui dont nous parlons apporte l'angoisse, l'obscurité, apporte la nuit. Et combien de fois le diable, et je voudrais quand même argumenter un peu, combien de fois le diable n'a-t-il pas voulu mettre en échec le plan rédempteur de Dieu jusqu'à Golgotha, jusqu'au dernier instant, jusque dans les derniers moments de Christ. Mettre en échec le plan rédempteur, dès le départ à la création. Je vais revenir sur les faits. Genèse chapitre 3. Mais laissez-moi simplement rappeler quelques faits de l'histoire humaine. C'est lui qui inspire, c'est lui qui instille l'esprit de rébellion, l'esprit de révolte et de contestation et de murmure des Hébreux dans le désert qui marche vers leur salut. Et lui, il fait tout pour qu'ils se révoltent, pour qu'ils n'atteignent pas le pays de Canaan. Inspiration. C'est lui, alors que Dieu est en train de donner au Sinaï les tables qui vont être le conditionnement d'une vie de bénédiction et une vie heureuse pour les hommes, c'est lui qui souffle la révolte avec le veau d'or, l'idolâtrie la plus sordide. Mais si nous prenons les faits davantage plus proches que nous dans l'Évangile, dans la personne de Jésus, que de tentatives de mettre en échec le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu. Ça commence à la naissance de Jésus, avec cet abominable personnage, mégalo, Hérode le Grand, qui lui, par jalousie, par vanité, alors qu'il apprend qu'un petit enfant est né dans une crèche, eh bien ne pouvant pas le trouver, il va faire massacrer tous les enfants de Bethléem. C'est pas une inspiration diabolique, criminelle, pour mettre en échec. Et il se dit, bien, si parmi tous ces enfants, on va faire tuer les enfants de Bethléem, hein, Rachel pleure. Vous connaissez la pensée du prophète Jérémie, je crois. Oui. Parce que si parmi ces enfants, eh bien, il y a celui dont on m'a parlé, mais comme ça, il n'y aura pas de suite à tout cela. Jésus, devenu adulte, va le rencontrer, ce fameux destructeur, ce prince des ténèbres, à travers la tentation pendant 40 jours dans le désert. Il le verra face à face. Mais Jésus triomphera. Et il nous est dit que le diable laissa jusqu'à un autre moment favorable. Et il y en a eu des moments favorables. La tempête sur le lac pour le faire couler, le faire périr avec ses 12 dans le lac. Tentative d'assassinat à Nazareth par ses propres compatriotes, par ses propres concitoyens, qui là, eh bien, l'ayant entendu ouvrir simplement et lire les paroles du prophète Ésaïe, eh bien, ont voulu le précipiter des pentes escarpées de leur montagne pour se débarrasser de lui. Derrière toujours la même main ténébreuse, la main de la nuit. Séduction à la royauté après la multiplication des pains. Quand cet ennemi ne peut pas nous avoir par la souffrance, il nous apprend par la jouissance et la vanité. Et après la multiplication des pains, on est monté vers lui en disant « Nous voulons que tu deviennes notre roi ». Vous savez ce que Jésus n'a pas répondu un mot. Il est passé à travers eux et il est parti. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les deux leviers, hein, naturellement. À travers toute la mystification des miracles, que le diable a essayé de contrefaire d'une manière ou d'une autre, à tel point qu'on dira quel outrage à la personne de Jésus. Regardez les miracles qu'il fait. Il fait parler un muet, c'était le cas. Eh bien, permettez-moi de dire, je parle à la place des gens de l'époque, eh bien que ce n'est pas par le doigt de Dieu qu'il fait les miracles, mais c'est par Belzébul, sordide, infâme, infernal, diabolique, satanique. Et tous les pièges, les plus inattendus, Jésus va les rencontrer, même parmi le choix de ses disciples. Nous avons Pierre qui dira, mais quand Jésus annoncera sa mort pour le salut du monde, il dira, mais surtout, ça n'arrivera pas, moi je suis là, hein. Pas de problème, hein. Certainement pas. On sait ce que Jésus va répondre à Pierre. Et puis, on en arrive à Judas. Judas, le disciple vénal, celui qui fonctionne avec de l'argent, qui a des idées tout à fait grotesques. Eh bien, tout cela, Jésus. Que de provocations. La main, c'est la nuit, tout ça. C'est la nuit. Et puis, les dernières paroles que nous avons lues. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Et comme ça, on aura la preuve de quelque chose. Mais ça a toujours été des tentatives infructueuses et répétées. Mais cette fois, Jésus est en croix et il est à l'agonie. Que va-t-il faire? Et Satan exulte, parce que ça fait des siècles et des siècles qu'il attend ce moment-là. Et ce moment est arrivé. Et s'il est enfin parvenu à ses fins criminelles, c'est-à-dire mettre à mort le prince de la vie, le seigneur de la paix, alors là, il est content. Et celui qui est lumière et vie va mourir comme un vil malfaiteur. Quel détournement, quelle parodie. C'est terrible. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est toujours le même. Il y a au fond du cœur de l'homme de la perversité, inspiré. Alors le monde entier va s'engouffrer dans ce sombre abîme. C'est pour ça qu'il fait noir. Et cet abîme s'appelle tout simplement eh bien, le mal, le péché, l'enfer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez que notre société, notre civilisation est meilleure que celle d'avant? Lorsque nous voyons tout ce qui se passe, lorsque nous recevons les informations qui sont les nôtres, tous les jours, nous sommes bombardés, pas de bombes, mais d'informations. Avec des informations, des contre-informations, des désinformations, et on fait avec. Moi, je pense qu'un chrétien, nous devons aussi avoir un regard vers ce que Dieu nous dit, par exemple, de ce que la parole nous dit du monde dans lequel nous vivons. Hein. Même si les temps changent, même si les choses évoluent, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous affolez pas. Il y en aura encore. Alors, toute espérance semble détruite à jamais à ce moment-là, lorsque nous ouvrons la Bible, au moment où nous l'avons ouverte. Alors, tout le monde peut crier, mais qu'est devenu le Sauveur? Qu'est devenu celui qui faisait de si belles promesses, qui nous faisait entendre et qui nous faisait rêver d'un royaume qui n'a rien à voir avec les royaumes de la terre, qui sont faits de sang et de feu. Mais d'un royaume, il est question de l'amour, de la vérité, et voilà où il se trouve. Il a bien parlé, mais il va mourir. Il a bien parlé, il a bien dit les choses, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste rien du tout. Et c'est là, justement, il faut que notre foi soit plus forte que les apparences, qu'elle soit plus forte que tout ce que nous pouvons nous imaginer. Nous ne fonctionnons pas avec l'imagination, je tiens à le dire. Nous fonctionnons avec des convictions et des assurances. Et nous nourrissons de cette parole qui fortifie ces assurances et cette conviction. Qu'est devenu le Sauveur? Regardez-le, il est sur une croix, il est crucifié. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est la nuit de la mort et de l'épouvante. Elle est arrivée. Et à ce moment-là, ultimement, Satan déploie toute sa puissance malicieuse pour accomplir son sordide travail de destruction. destruction à la fois de la créature et de son sauveur. Parce que s'il n'y a pas de sauveur, il n'y aura pas d'espérance pour la créature. Il n'y aura pas de salut. Alors on atteint la tête, comme ça on aura le reste. C'est l'heure la plus sombre de l'histoire de l'humanité, me semble-t-il. Et il y en a eu d'autres après. Il y a eu des tohu-bohu dans notre monde, dans les temps, dans les siècles. Mais là, celui-ci, il résume tout. Il nous parle suffisamment. Mais, et je dis mais maintenant, il faut savoir que pour Dieu, et ce Dieu dans lequel nous mettons notre confiance est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui sait tout, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il est souverain, un succès, et je le rappelle parce que ça vaut pour notre vie, ça vaut pour nos circonstances, ça vaut pour nos détresses nous-mêmes en tant qu'hommes, c'est qu'un succès apparent cache souvent une retentissante défaite du mal. Surtout qu'il ne faut pas nous décourager. Que ce soit confronté à la maladie la plus cruelle, la plus douloureuse ou celle qui, eh bien, là, est en la capacité de nous emporter, ou des situations économiques, des situations professionnelles, des situations conjugales, des situations familiales, ou tout ce que nous pouvons imaginer, et la liste est longue, eh bien, croyez que quelque part, lorsque nous voyons le mal triompher, eh bien, nous devons réagir et penser que nous avons quelqu'un dans le ciel qui est plus fort que le mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et c'est comme ça ce qui fait la force de notre foi. Mais, j'ai bien dit, et le diable ignore que celui qui est en train de jeter à la mort, de précipiter dans la mort et dans la nuit éternelle de la mort, eh bien, il ne sait pas que, finalement, le diable est en train de faire une œuvre qui le trompe. C'est qu'en mettant Jésus à mort, c'est notre salut et c'est la vie qui va éclater. C'est la vie qui va devenir éclatante. Alors, il fait une œuvre sur laquelle il se trompe. Jésus avait déclaré à ses disciples cette parole. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et Jésus d'ajouter dans un autre évangile, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je trouve que ce sont des paroles extraordinaires. C'est que le diable pensait avoir la victoire, et c'était précisément son jugement qu'il était en train de déclarer. C'est curieux, hein ? Le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est pour cela que nous devons prendre des forces et que nous devons nous fortifier les uns et les autres devant les situations difficiles. On en parlait vendredi soir, j'ai parlé de situations impossibles. Eh bien, Jésus nous répond, comme il le dira à ce père de cet enfant épileptique, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois que les uns et les autres, nous avons besoin de, non pas de fabriquer une foi, mais de fortifier notre foi, de marquer notre foi dans ce qui nous semble quelquefois, eh bien, insurmontable. Eh bien, nous avons quelqu'un dans le ciel qui est capable de nous faire, de nous donner la victoire. Je prends l'exemple du peuple juif qui, pendant près de 4000 ans d'histoire, toutes les tentatives ont été faites contre lui pour l'anéantir, pour le faire disparaître et que le nom d'Israël ne soit plus nommé sur la terre. Et encore aujourd'hui, il y a cet antisémitisme et tout ce qui se passe. Mais moi, je dis que c'est le peuple de Dieu, comme l'Église est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, qu'il soit Israël ou l'Église, subsistera à jamais. Parce que nous avons foi, non pas dans les choses visibles, mais dans l'invisible. Non pas dans les choses finalement passagères, mais dans des choses éternelles. C'est ce qui fait la différence. Alors fortifiez-vous les uns et les autres. Et dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que je vous parle de la croix, et la croix vous parle également, et je vous dis, ne baissez pas les bras. Si vous êtes à deux doigts peut-être de capituler, eh bien dites que c'est le moment de la victoire. C'est pas un raisonnement psychologique, c'est tout simplement l'histoire que nous connaissons, mais que nous avons besoin de vivre et d'appliquer à notre vie. Par la foi, tout simplement. Et nous-mêmes, et chacun d'entre nous, nous pourrions raconter des histoires extraordinaires au moment où tout le monde nous disait tout est fini et que nous pouvions penser que tout était fini, eh bien tout a recommencé dans un jour nouveau, comme une vie nouvelle. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça, la croix. La victoire de Satan va se changer en triomphe pour Dieu. Seigneur, je ne te comprends pas. Je ne sais pas où tu me fais passer. Je ne comprends pas tes voies, mais je n'ai pas besoin de les comprendre. J'ai besoin simplement que de te dire que je crois quand même et enverrai contre tout en toi. Triomphe du bien sur le mal. Victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Parce que la résurrection est proche. Il faut que Jésus meure pour qu'il ressuscite. Et il faut que nous-mêmes nous mourions pour ressusciter. Et ça, on n'aime pas mourir. Hein. Enfin, on mourra qu'une fois. Hein. Mais je veux dire qu'on meurt tous les jours. Hein. dans toutes sortes de choses. Oh, Paul l'écrit d'une manière admirable dans son épître. Ah, il dira, oui, il faut absolument que, il faut mourir à soi-même. Il faut renoncer à soi-même, et ça c'est dur, c'est difficile. Et ça relève d'une sagesse divine, donc infinie. C'est une puissance sans égale, et c'est le témoignage, tout simplement, du merveilleux amour de Dieu pour nous, ses enfants. Jésus devient à ce moment-là, dans les ténèbres, dans la nuit la plus sombre, l'étoile brillante du matin. Vous savez, après des nuits d'angoisse, quand nous sommes malades, il y a quelque chose qui nous rassure lorsque nous ouvrons la fenêtre. C'est qu'il fait jour et quelquefois il fait du soleil. Et déjà le soleil, ça rassure, la lumière. Mais il y a une autre lumière, c'est celle de Jésus, l'étoile brillante, il nous est dit. Parce que dans tous ces moments difficiles, l'espoir, la lumière brille toujours. Peut-être imperceptible au bout de notre tunnel, de notre cauchemar, mais elle brille. Et plus nous allons nous rapprocher, plus elle va grandir. Et nous serons à la pleine lumière à un moment donné. Alors la nuit reste la nuit pour quiconque demeure incrédule et opiniâtre. Mais la nuit se change en aurore pour celui qui croit et qui triomphe en Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Il est passé par là pour que moi, je puisse finalement m'en sortir. Le message du christianisme est un message très simple, et il est merveilleux, il est admirable. Combien nous aimerions que tous les gens qui souffrent, et il y en a des millions et des millions autour de nous, hein. C'est terrible la souffrance. C'est un océan, c'est plus vaste encore que l'Atlantique, le Pacifique et tous les océans de la Terre. Tellement il y a de souffrance. Les gens ne le disent pas, ne le montrent pas, mais il y a une grande souffrance. Elle est peut-être visible dans les corps, mais elle est souvent cachée, dissimulée, secrète. Elle est terrible. Elle est terrible. Alors le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Qu'a-t-il bien pu se passer à cette heure tragique? Certains diront, c'est le hasard. Ouais, c'est une coïncidence. Ou alors, c'est une révélation divine où Dieu veut nous donner à chacun, pour le temps et pour tous les temps, eh bien, une révélation, un message. Pour saisir la signification de ce voile qui se déchire subitement, il faut aller le chercher dans l'Ancien Testament et aller y trouver quelques vérités qui nous expliquent les faits. Il y avait dans le tabernacle au désert, puis ensuite dans le temple de Jérusalem, édifié l'un le premier par Moïse et le deuxième par Salomon, deux endroits distincts et sacrés. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, et l'un et l'autre étaient séparés par un splendide, un magnifique voile bleu. Vous avez vu peut-être quelques gravures? J'ai dit les gravures parce que la représentation que nous pouvons faire de ce temple, de somptueux, de cette maison de Dieu. Un magnifique voile. Or, l'accès au lieu très saint était strictement réservé une fois par année au souverain sacrificateur qui s'approchait ainsi de Dieu, et il s'approchait avec une motivation dans une démarche particulière, c'était pour plaider le pardon du peuple d'Israël. Une fois par an. Une fois. Et il n'y avait qu'un homme qui pouvait le faire. C'était la sommité. C'était l'homme le plus élevé en dignité et en accréditation divine, le souverain sacrificateur. Et il le faisait au nom de ses collègues. Il le faisait au nom de tous les prêtres, de tous les lévites. Il le faisait au nom de tout le peuple, hommes, femmes, enfants, vieillards. Tous. Et pendant des siècles et des siècles, il en a été ainsi. Personne ne pouvait y pénétrer sous peine de mort. C'est une anticipation de ce qui allait venir de l'endroit et du moment dont nous parlons, c'est-à-dire Golgotha. Le pécheur ne pouvait pas s'approcher de lui parce que Dieu est saint. Et c'était la loi. Et la loi était marquée par cette déclaration du prophète Habacuc, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Donc un homme ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Mais Jésus est venu. Et non pour condamner, mais pour sauver l'homme et lui faire grâce, c'est-à-dire absoudre, c'est-à-dire lui remettre sa dette, lui donner la liberté de s'approcher de Dieu, de pouvoir passer du lieu saint au lieu très saint en toute liberté. s'approcher de Dieu en toute liberté, non plus avec une conscience chargée, non plus avec la peur et la crainte d'un jugement, mais de pouvoir dire « Je rentre à la maison maintenant comme le fils prodigue et je serai bienvenu et je serai accueilli et Dieu me bénira. » Non pas parce que je le mérite, non pas parce que j'y ai droit, non pas parce que ceci et cela, mais parce que je suis tout simplement sous le coup de la faveur et de la grâce de Dieu. C'est beau, non ? Enfin, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est un euphémisme. On pourrait dire autre chose. Seigneur, tu es merveilleux. C'est merveilleux. Je vous dis des choses simples ce matin. Sur la croix, Jésus, par son sacrifice, prend sur lui nos péchés. Il n'y monte pas pour lui, il y monte pour nous. Il prend notre corruption, tout ce qu'il y a d'enfoui, tout ce qu'il reste encore à subsister encore dans nos vies, même de chrétiens qui sont là dans les tréfonds de notre âme et avec lesquels nous nous bataillons, avec lesquels nous sommes en train de lutter en disant « Seigneur, mais oui, mais le Seigneur a la solution. » Alors il est condamné à notre place. Jésus le juste, il fait don de sa vie. Alors la séparation qui oppose Dieu et l'humanité, vous savez ce voile, je dirais ce mur, parce que Paul parle d'un mur aussi, hein, un mur d'iniquité, d'inimitié. Alors ce voile à ce moment-là, subitement, va se déchirer en laissant à tous les hommes repentants, je dis bien, je précise tous les pécheurs repentants, les hommes de notre nature, mais dans la repentance, la liberté de rentrer en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu as ouvert la porte. Merci Seigneur, je suis sauvé. Et nous pouvons le dire les uns et les autres ce matin, je suis sauvé Seigneur. Oui, vous croyez que vous êtes sauvé? Personne ne vient me voir pour dire je crois que je suis encore perdu. Mais non, vous croyez en Jésus-Christ, c'est simple. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé, vous êtes pardonné, vous avez la vie éternelle. C'est pas plus difficile que cela. Qu'est-ce que les gens et qu'est-ce que les religions ont cherché à compliquer les choses? En faisant ceci, en faisant cela, en s'abstenant de ceci, de cela. Mais c'est beaucoup plus simple. Je crois en Jésus. Et maintenant, c'est formidable. Et je suis sauvé, je suis heureux. Je suis un chrétien et je suis heureux, donc j'ai la joie avec moi. Ah, c'est dur d'être chrétien. Hein ? Non, mais c'est vrai, on est heureux, on tressaille dans les mots, dans la Bible, il y a des expressions, dans nos cantiques, dans notre hymnologie, il y a des cantiques qui parlent de joie et d'allégresse d'être à Jésus-Christ et d'être sauvé. Oh, que le Seigneur envoie véritablement la joie sur nos églises. Hein ? Parce que nos églises sont souvent comme le monde. Hein ? Des joies frivoles, excusez-moi. Mais il n'y a pas de profondeur, où tout est en surface sur le visage, mais à l'intérieur, il y a une tristesse. Mais nous n'avons pas le droit d'être dans la tristesse, mes frères et sœurs. Le Seigneur a payé le prix. Nous n'avons pas le droit, je dis. Et il y a des moments qui sont difficiles dans notre vie, mais nous avons la solution et la réponse. La joie et la force que Dieu nous donne, parce que nous sommes sauvés, tout simplement. Alors la porte est grande ouverte, et il n'y a plus de voile de séparation. Et enfin, cette dernière parole sur laquelle je vais conclure. Cette parole de Jésus, parole d'un mourant, parole d'un moribond, d'un expirant, Père, écoutez bien, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parole renfermant pour chaque homme, chaque mortel que nous sommes, le gage de nous faire affronter victorieusement la reine des épouvantes, et j'ai dit la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort? On peut avoir peur de la mort. On peut avoir peur des conditions qui vont nous amener à la mort, donc la souffrance. Mais nous n'avons pas à avoir peur de la mort en elle-même, puisque nous savons où nous allons. Vous avez votre passeport, visa, tout, pas de problème. Il n'y a pas de refoulement. On ne doit pas avoir peur. On reste des hommes. Hein. La séparation avec ceux que nous aimons, c'est toujours très douloureux et ça se comprend, c'est humain. Et le Seigneur est là pour nous consoler et nous apporter finalement eh bien, ce qui nous est nécessaire dans nos peines et dans nos larmes. Mais pour nous-mêmes, Paul le dit, mourir... C'est renaître. parce que nous allons rentrer dans une autre dimension. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous étiez dans, à l'état embryonnaire dans le ventre de votre mère? Vous n'avez pas un grand souvenir, hein? Ah oui, et vous êtes passé d'une situation, d'un état à un autre, c'est-à-dire la vie. Et là, nous sommes en train de préparer justement une autre dimension pour rentrer dans une autre dimension, une autre... La vie humaine, c'est une école. On ne se souvient pas de notre cognition première, à l'état embryonnaire. Et puis là, nous allons rentrer dans quelque chose qui va nous propulser. Oui. La mort, le lot de chacun, la frayeur des hommes, même des plus vaillants, des plus forts, celle qui inspire l'effroi et l'angoisse, pour les grands comme pour les petits, pour les rois comme pour les manants. Hein. Le cri de Jésus n'est pas un cri de désespoir, et je le rappelle, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais celui de la victoire, et il veut bien être entendu. Il veut être bien entendu, c'est pour ça qu'il nous est dit, Jésus s'écria. Il n'a pas murmuré du bout des lèvres, il s'est écrié pour que le monde sache, pour que le monde comprenne, qu'il entende. Il s'écria d'une voix forte. Il y a quand même une différence entre parler en sourdine et puis crier, s'écrier, afin que la terre apprenne que celle qui a régné depuis le commencement Éden a été vaincue à jamais. Il y a un beau texte que nous avons dans l'épître de Paul au chapitre 15, me semble-t-il, au verset 54. C'est un texte que nous lisons dans certaines circonstances. Il est dit ceci, écoutez. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh oui, voilà la proclamation. Voilà la fin des choses. Voilà notre déclaration de victoire. Son vainqueur à celui-là, il s'appelle Jésus. Et il offre la libération de la crainte de la mort, précisément. Et c'est écrit dans Hébreux, chapitre 2. Écoutez, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, sont toute leur vie retenus dans la servitude. Il faut régler notre problème, frères et sœurs, si vous avez encore la servitude de la crainte de la mort. Nous l'avons eu, certainement, une époque de notre vie où nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut régler le problème. Je voudrais vous dire que vous n'avez aucune crainte de mourir. Vous n'avez pas peur. Il n'y a pas d'inconnu pour nous. Nous savons ce qui se passe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut fonder notre foi. Et de ne pas dire, eh bien voilà, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Parce que précisément, l'antidote de la peur et de la crainte, et particulièrement de la mort, c'est la foi. Nous n'avons plus à vivre la peur de manquer de ceci, la peur de vivre ou la peur de mourir, la peur de ceci ou de cela. Les choses sont réglées pour chacun d'entre nous. Et il y a à cette parole une glorieuse espérance pour quiconque croit. Dans Jean chapitre 11, écoutez, Jésus nous le dit et le frappe en coin. Il le dit pour que le monde entier le sache. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et au moment où Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie, il y avait tout un contexte de mort, c'était Lazare qui était dans le tombeau. Et c'est à ce moment-là qu'il nous parle de vie. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de nous souvenir de ces paroles. Alors naturellement, l'incrédule et le moqueur, eh bien, il se rit de tout ça, il se dit, devant une pierre tombale. Et qu'est-ce qu'ils sont fous, ces gens, ces chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils croient? Eh bien, nous croyons que Jésus est la résurrection et la vie. Et en tous les cas, nous n'allons pas nous perdre dans tous les méandres des philosophies orientales qui nous parlent de réincarnation. Enfin, je le dis au passage. C'est beaucoup plus simple comme ça. La mort a perdu son pouvoir parce que Jésus a dit « Je remets mon esprit entre mes mains ». Jésus sait où il va et vers qui il va. Et il l'appelle, il dit « Mais Père ». Il n'appelle pas un inconnu, il n'appelle pas mon Dieu. Tout à l'heure, il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il l'appelle Père. Et nous n'avons pas à appeler Dieu, finalement, autrement que notre Père. D'ailleurs, dans l'introduction du Sermon sur la montagne, et entre autres dans tout ce beau passage qui ouvre le message du royaume de Dieu aux hommes, ça commence par cet apprentissage de cette belle parole, « Notre Père qui es aux cieux ». Nous n'avons plus un Dieu, nous avons un Père. Et moi, je suis son fils. Vous êtes aussi ses fils et ses filles. Et quand on est fils et fille d'une maison, on en a parlé sur l'adoption il n'y a pas longtemps, eh bien, on est libre de toute chose dans la maison de notre Père. Nous sommes chez nous, dans sa famille. Ça change beaucoup de choses. Alors, il dit Père. Il sait, Jésus sait, il proclame que la vie n'est pas faite uniquement d'une dimension, celle du corps, mais aussi celle de l'âme et d'un esprit mortel. Oui. Nous vivrons, frères et sœurs. Nous vivons. Nous n'allons pas commencer à vivre de l'autre côté, nous vivons déjà maintenant. Nous avons les arts de l'esprit, et l'esprit qui est en moi, eh bien, me dit et me rappelle que je suis un fils de Dieu, que je suis un enfant de Dieu, que je lui appartiens et qu'il m'appartient. Tout simplement. Quelle certitude, quel merveilleux réconfort de savoir que le Père nous attend dans une autre vie. Et cette vie, elle apporte un nom, la vie éternelle. Père, je remets mon esprit entre tes mains, entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. La peur, l'angoisse, pourquoi? Pourquoi? Romains, chapitre 8, verset 1er. Vous pouvez me le dire, sans ouvrir votre Bible, parce que ce serait... Romains, chapitre 8, verset 1er. Qu'est-ce que vous savez de Romains 8, 1er? Très juste. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus, je précise, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus ou vous ne l'êtes pas? Si vous êtes en Jésus, vous n'êtes plus sur la condamnation. Vous êtes dans la grâce et vous êtes sauvés. Et il n'y a pas de poids de mesure. C'est comme ça, c'est simple. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Alors la nuit se dissipe. Jésus nous dit « Je suis la lumière ». Du monde, celui qui me suit ne marcherait pas dans les ténèbres. Le voile se déchire. Écoutez ce que nous dit l'apôtre. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante et nouvelle qui nous a offerte. Le voile s'est déchiré. Et puis, victoire sur la mort. Savons-nous où nous allons? Nous pouvons répondre. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, au moment où nous rendrons notre dernier souffle, la plus belle parole que nous pourrons dire, nous en avons peut-être dit des belles, peut-être des moins belles dans notre vie, mais de pouvoir dire, eh bien Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, parce que je sais où je vais, et j'ai l'assurance de ton ciel, de ton paradis, où il n'y aura plus rien de comparable, où il n'y aura rien de semblable à ce que nous connaissons sur la terre. Moi je bénis le Seigneur que la vie, elle peut être belle. Moi je vis la vie, je vis ma vie, en pensant qu'il y a des choses qui sont belles. Ouais, ah oui, quand même. Excusez-moi, mais il y a des choses qui sont formidables dans la vie quand même, non? Oui, il y a des choses qui sont moins belles, et il y a des choses qui sont franchement mauvaises, laides, vilaines, tout ce que vous voudrez. Mais moi, je bénis le Seigneur que quand même, il nous a donné eh bien, sa grâce pour vivre cette vie. Mais le plus beau reste de l'autre côté. Ouais, oui. Il n'y aura plus de rhumatisme, il n'y aura plus de sciatique, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus ceci. On rentrera dans cette dimension. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il nous a ouvert la porte. Et c'est lui qui nous donne d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Bénissons-le de tout notre cœur et on va prier quelques instants. Et tout à l'heure, on continuera dans la louange et dans l'adoration. Parce que je crois que, excusez-moi, mais le mot... tout à fait approprié à Jésus et seulement à Jésus, il mérite que nous l'adorions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, pour cette merveilleuse parole qui est un message d'espoir, d'espérance, qui racénère nos cœurs et qui nous donne de regarder non pas, Père éternel, vers la terre, mais de regarder vers le ciel, même si nous marchons encore sur la terre. Seigneur, un grand merci pour Jésus. Merci pour la croix parce qu'il a fallu qu'il y ait Jésus monte à la croix, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour notre salut. Tu nous bénis les uns et les autres. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont peut-être en train de qui sont encore peut-être à traîner, des fardeaux, des craintes, des peurs, des appréhensions, qui sont en train de douter, qui écoutent davantage encore la voix subtile de l'ennemi qui leur rappelle sans cesse « Dieu aurait-il réellement dit ?» Eh bien, moi, aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous a dit, que Dieu m'a dit, et déjà depuis longtemps, et je veux tout simplement croire que ce que Dieu m'a dit, et le reste ne m'intéresse pas. Alors merci, Seigneur, de ce que tu veux, véritablement que notre vie soit une vie pratique, une vie chrétienne pratique, une vie de foi pratique. Alors, Seigneur, aide mes frères et mes sœurs, bénis mes amis, Seigneur, fais-leur du bien, réjouis-les, et qu'ainsi tous ensemble, d'une même voix, dans un concert de louanges et d'adoration, nous puissions élever notre voix et glorifier Jésus pour son salut merveilleux et éternel. Amen. 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 Merci, Seigneur.